Aujourd'hui, on continue notre étude sur la foi. On a encore des belles choses à voir dans la parole de Dieu, des choses qui vont nous donner une vision encore plus profonde du travail qu'un chrétien doit faire, à combattre pour la foi. Notre foi, c'est le plus grand trésor et en même temps, qui a besoin d'être défendu. C'est comme si on serait dans un pays hostile, puis que là, tout le monde vole les autres, puis à un moment donné, tu n'as pas le choix, faut que tu te fasses des barricades, faut que tu protèges ce que tu as, tu protèges ta famille, tu protèges tes biens, tu fais une barricade autour, puis tu attends, puis tu veilles. Jésus en a parlé de cela, de celui qui veille toute la nuit pour laisser le voleur venir percer puis voler. Puis c'est normal de veiller à ce qu'on se fasse pas voler. Puis nous le demande aussi de veiller face à l'ennemi, le diable, pour pas qu'il vienne nous voler ses promesses. On l'a chanté tantôt. Ne laisse pas l'ennemi voler tes promesses. Les promesses sont pour celui qui a la foi. Il les a saisies. Laissons personne ni rien dans ce monde ni nous voler ses promesses à Dieu. C'est précieux. Ce qu'on a en Jésus, c'est précieux. C'est le trésor le plus précieux de cette planète. Vous avez beau avoir votre cave remplie de diamants jusqu'au rez-de-chaussée, là, ça sert à rien devant Dieu, puis ça vous payera pas l'entrée pour la vie éternelle. Ce qu'il y a de plus important, à quoi ça sert à un homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Il n'y a rien gagné s'il perd son âme. Selon la Bible, qu'est-ce qui est le plus précieux pour un chrétien? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Il y a des choses qui c'est précieux, hein, pour un chrétien. Il y en a qui peuvent dire, oh, ben, moi, j'aime mon char, ou j'aime ma femme, j'aime mes enfants. C'est pas la priorité. Tout ça va disparaître un jour. Seules les choses éternelles demeurent. Puis Dieu nous en a déjà donné des choses éternelles, sont là. C'est un trésor qu'on tient dans nos mains, qu'on a devant nos yeux. Laissons-nous pas voler. Quel est le plus beau trésor que l'on devrait garder précieusement? Mais ça provient tout de la même place. Dans Matthieu 13, 44, Jésus nous en donne une brève description, mais on va regarder certains passages qui vont nous faire voir que tout ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ça demeure éternellement. Dans Matthieu 13, 44, Jésus a dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il jette ce champ. » Première chose que je remarque, Dieu est en train de nous révéler, c'est quoi le trésor? Il nous dit dans ce verset-là, il dit, c'est le royaume des cieux. Savoir qu'on a notre place dans le ciel, il n'y a rien de plus. Puis tout ce qui vient de ce royaume-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le petit hic dans cette révélation-là, c'est que ça nous parle qu'il est caché dans un champ. Faut que tu l'aies trouvé, ce royaume-là. C'est pas, tu t'enfarges pas dedans comme par hasard. Il y a une recherche. Lui est en quête de la recherche. Celui qui l'a trouvé. Puis en cherchant le trésor, il l'a trouvé. Puis il a tellement trouvé que c'était précieux, ce trésor-là, qu'il est allé tout vendre ce qu'il y avait pour pouvoir se l'acheter. Y a-tu de quoi plus important que ce trésor? Le royaume des cieux, Jésus qui nous donne cet exemple-là, il voulait nous mettre devant nos yeux comment est-ce que c'est important de trouver le royaume des cieux. C'est comme un trésor qui est caché, mais il faut que tu le trouves. Puis pour l'acheter, il faut que tu sois prêt à renoncer à tout pour le posséder. Une fois qu'on l'a trouvé, laissons-nous les pas enlever. Le précieux, c'est ce que Dieu nous a donné comme révélation pour qu'on puisse saisir le royaume des cieux, pour que ça nous soit accessible, une ouverture pour pouvoir y entrer. Il n'y a rien de plus précieux. Il y a devant Dieu que ce qui provient de ce trésor-là qui a de la valeur pour Dieu. Tout ce qu'on a dans notre vie en tant qu'humain, en tant qu'être humain, tout ce qu'on a dans, on a fait, ce qu'on a dit, ça vaut zéro devant Dieu. Ça dit dans un verset, notre justice était comme un vêtement souillé. Il dit, même on arrivait là, malgré qu'on est méchant, à donner du pain à nos enfants, ils nous demandent du pain, on ne donnera pas un scorpion. Même, il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Ça veut dire qu'on peut faire des bonnes affaires, mais notre base, notre intérieur, c'est de la méchanceté, puis il faut être capable de l'avouer, parce que si on ne l'avoue pas, qu'on n'a rien de bon, on ne cherchera pas à ce que Dieu vienne le faire, ce qui est bon. Ce qui est bon aux yeux de Dieu, c'est ce qui vient de son trésor à lui. Allez voir Matthieu 13, et versets 34 et 35. Ça nous dit dans ce passage-là, l'état de l'homme, puis quand quelqu'un a le bon trésor, là, le bon trésor qui vient d'en haut, le trésor, la révélation de Dieu, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, les promesses de Dieu. Regardez bien, Jésus parle aux gens, premier jugement ou première analyse de leur état, il répond aux gens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Jésus, quand il regardait les gens autour d'eux, c'était tous des gens religieux qui allaient à l'église, pas à l'église, mais à la synagogue, puis ça priait des heures de temps. Puis quand ils arrivent devant Jésus, Jésus les a pas dit, oh, vous êtes des bons gars, puis vous avez réussi. Non. Tout le monde à la base, les gens, Jésus les a dit, vous êtes une race de vipères. Les vipères, c'est quoi? Des fils de serpents. C'est qui le serpent? C'est le diable. L'ensemble de l'humanité aux yeux de Dieu, c'est des fils du diable. Il dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Mais là, il est en train d'expliquer qu'il peut y avoir un changement dans la vie des méchants. Verset 35. Verset 34, à la fin, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que si t'es méchant, il va sortir de la méchanceté. Mais il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Là, il est en train de dire, comment il pourra sortir de quoi de bon de votre cœur mauvais? Mais il dit, par contre, un homme bon, il va sortir de bonnes paroles venant de sa bouche, de son bon trésor. Tandis qu'il dit, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Jésus est en... Oui? 12. J'étudie 13, excusez. C'est 12. Matthieu 12, 34 à 35. Vous étiez perdus, puis vous êtes retrouvés. Alléluia! Gloire à Dieu! Voyez-vous la différence? L'ensemble, il disait, tous des fils de la géhenne, des fils des races de vipères, il sort rien de bon de votre cœur. Sauf qu'il dit, l'homme bon, un homme bon, lui, il va sortir de bonnes choses de son bon trésor. De quel trésor vous pensez qu'il pourrait être bon aux yeux de Dieu? C'est pas qu'est-ce qu'on peut produire par nous-mêmes. Il venait de leur dire que c'était toutes des gens qui étaient incapables d'avoir de quoi de bon. C'est du trésor qui vient de Dieu. Le seul qui avait les paroles qui venaient de Dieu, c'est Jésus. C'est le seul qui avait les bonnes paroles qui est venu pour nous révéler le trésor de Dieu, ce qu'il y a de plus précieux pour le chrétien. Moïse avait compris cela, qu'il y avait de quoi de précieux dans le Messie à venir. Moïse, ça, on ne le voit pas quand on lit Moïse, mais les écrits du Nouveau Testament nous ont révélé ce que Moïse pensait lorsqu'il était face au Pharaon, puis il était élevé par les Pharaons. Tout ce que le Pharaon avait était à sa disposition. Il aurait pu profiter de toutes les richesses du Pharaon, toutes les richesses d'Égypte, en étant descendant adopté de la fille du Pharaon, Il aurait pu peut-être même être héritier d'une part, mais lui, il a regardé ça comme ça compte pas, c'est pas important. Il servirait de bord, puis il a regardé le peuple, puis il savait qu'il était un Hébreu, puis que le peuple se faisait torturer en Égypte, puis il était tout esclave, puis lui, il faisait partie de ce peuple-là. Puis il a regardé le passage dans Hébreux 12, 26. Il nous dit dans ce passage-là, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rémunération. Moïse avait la foi. C'est un homme qui avait la foi, malgré qu'il ne savait pas encore quel était son appel, mais il savait que c'était pas de rester auprès du Pharaon. Il a quitté ce lieu-là, puis s'est en allé par la foi. Il savait en dedans de lui qu'il était pour faire quelque chose pour aider le peuple d'Israël, mais il n'en avait pas la capacité tout seul. Fait qu'il est parti. Il est parti en exil pendant 40 ans. Par la suite, Dieu l'a renvoyé. Mais dans son cœur, quand il a considéré les richesses de l'Égypte, puis il a considéré l'opprobre de Christ, la honte du Messie, parce que tout le monde attendait le Messie, tout le monde criait au Messie, il attendait la promesse de celui qui écraserait la tête du serpent. C'était dans leur écrit, c'était dans leur enseignement, il attendait le Messie, puis il savait que viendrait un Messie, puis il a regardé cette promesse-là plus importante, c'était plus précieux pour lui, le trésor du Messie, que tous les trésors de l'Égypte. Puis le trésor du Messie, ça y a été pour lui, souffrance. Il a tout perdu. Il a perdu sa popularité, il a perdu ses richesses, il a perdu son confort, il a perdu sa famille adoptive. Il est parti en exil, fait qu'il a vécu, il a refait sa vie ailleurs. Il a perdu beaucoup, mais il a gagné encore plus, parce que là, Dieu l'a utilisé pleinement, puis il va avoir une belle place là au bord. Il y a aussi l'exemple de l'apôtre Paul, que lui avait compris que l'opprobre de Christ, la honte de Christ, ou le travail pour Christ, c'est important, puis c'était un trésor qui valait la peine de se battre pour. Dans Colossiens 2, les versets 1 à 3, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » L'apôtre Paul, c'était pas un gars qui se laissait aller puis qui perdait son temps. Oui, nous autres, on peut perdre notre temps. Mais lui, non. Il travaillait dans l'œuvre, puis combattait efficacement, puis il avait à cœur les brebis du Seigneur. Puis il savait que la mission qu'il avait à faire, c'était pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Puis il considérait cela comme étant un trésor qui en valait le prix. Alors regardez quand il parle de ce qu'il faisait comme ministère. Il dit, en effet, je veux que vous sachiez combien grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et, un autre point pour lequel il travaillait, que les gens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Son ministère à l'apôtre Paul, c'est un combat acharné à former des disciples. Puis qu'une fois que le disciple est en formation, il voulait que la personne reçoive d'être consolée, qu'elle soit unie en connexion d'amour avec les autres frères et sœurs et qu'elle soit enrichie dans son intelligence, de la connaissance du Messie. Puis dans cette connaissance-là, c'est là-dedans que tu retrouves tout le trésor de Dieu. Quand tu connais Jésus-Christ, tu connais le trésor de Dieu. Puis dans ce trésor-là, tu retrouves toutes les intelligences, les sagesses, les révélations, les connaissances qu'on a besoin, qui proviennent de ce trésor-là. Commencez-vous à voir c'est quoi le trésor de Dieu? C'est de connaître le Christ et sa parole. Une fois que tu le connais, tout débloque. Puis c'est là que de ton cœur peut sortir de bonnes choses, de ton bon trésor qui est le Christ. Par la révélation de la parole de Dieu, parce que là, c'est où est-ce que je vais aller pour l'avoir, cette révélation-là aujourd'hui. Mais j'ai un livre, tout est écrit dans ce livre-là. C'est que tu as toute la révélation de Dieu dans ce livre-là. Tout ce que tu as besoin de savoir, la description par des gens qui ont été témoins de cela, puis ils ont enseigné des choses, ça nous a été laissé par écrit pour qu'on puisse sonder le trésor de Dieu. La révélation de Dieu, ça fait partie du trésor que Dieu nous donne. Il n'y a rien de plus précieux que cela. T'as beau avoir un beau char neuf, t'as beau avoir une belle maison neuve, t'as beau avoir une belle femme flambant neuve, t'as rien si t'as pas le Seigneur Jésus-Christ. Par la révélation de la parole de Dieu, qui est notre trésor, nous comprenons la valeur de l'œuvre de Jésus, ce qui nous permet de s'approcher de Dieu. Parce qu'à cause qu'on l'a compris et qu'on l'a saisi, ça nous permet, ça nous donne une ouverture de s'approcher de Dieu. Sans cette révélation-là, on aurait continué à être ignorant, pensant que notre religion peut nous aider ou nous essayer de trouver une satisfaction, on n'aura rien. On sera errant, perdu, égaré, un aveugle, puis qui peut peut-être conduire d'autres aveugles, puis on aura tout tombé dans le même trou, sans savoir où ce qu'on est. Parce que le seul qui est la lumière de cette vie, c'est le Christ. Ça nous dit dans la parole, dans Éphésiens 3:12, en Jésus, nous avons par la foi en lui, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Y a-tu de quoi de plus précieux que de dire que tu as un contact avec Dieu, que tu as une relation avec Dieu, que tu peux parler librement à Dieu, puis que Dieu te parle, puis il t'enseigne des choses. Ce contact-là était impossible sans avoir connu Jésus. Notre trésor, c'est Jésus et sa parole. Le trésor de Dieu est une source inépuisable de grâce et de révélation que nous pouvons puiser. Tout est là. Puis là-dedans, on retrouve tout pour recevoir tout de Dieu. Autant que Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu, autant que ça nous dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Voyez-vous, cet accès-là de pouvoir aller puiser dans sa grâce et de recevoir ses bénédictions, ça nous vient parce qu'on le sait. Où est-ce qu'on l'a su? C'est parce qu'on est épuisé dans la source des révélations, puis on peut l'affirmer aujourd'hui. Je peux parler à Dieu et Dieu m'entend. Dieu m'ouvre les portes, puis il y a des promesses que Dieu a faites qui vont s'accomplir.
Amen.
Sommes-nous heureux de connaître ce trésor-là? Oui. Ça nous révèle Jésus. En parlant que ce trésor-là est une source inépuisable de grâce et de révélation, parce que de grâce, j'aurais pu écrire le mot cadeau, c'est une source inépuisable de cadeaux qui nous viennent de Dieu et de révélation. À chaque fois qu'on apprend de nouvelles affaires sur Dieu, c'est une révélation, c'est un cadeau de Dieu, puis ça nous édifie, puis ça nous bénit. Moi, à chaque fois que j'apprends quelque chose, puis j'en apprends régulièrement, ça me bénit, puis ça me réjouit, ça m'excite. Pour moi, c'est plus précieux cela que n'importe quoi d'autre. Tu me donnerais un char neuf, j'en veux même pas, moi j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, aucun intérêt pour les richesses de ce monde. Mais les révélations de la parole, par exemple, chaque fois que ça fait clic, je suis heureux, ça me bénit, j'espère que ça fait la même chose pour vous. Dans Matthieu 13:52, Jésus en parle de cette idée-là. Il leur dit, C'est pourquoi tout scribe instruit de s'y regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. On tire de notre trésor. Il est où le trésor? C'est ça, les révélations. C'est ce qu'il y a de plus précieux. On tire de notre trésor des choses anciennes parce qu'on les a déjà entendues. Fait qu'on, ça nous rappelle des choses qu'on a déjà entendues et des choses nouvelles. C'est les nouvelles révélations. Pas des révélations en dehors de la parole. Des révélations par la parole. De comprendre la parole. Il y a une différence. Parce qu'il y en a qui partent sur des nouvelles révélations qui sont pas écrites là, mais il y en a, ils disent qu'ils ont des nouvelles révélations. Faites attention. Faut que ça soit conforme puis de pas aller au-delà de ce qui est écrit. Sinon, on se fait emporter par d'autres esprits. L'Esprit de Dieu nous a déjà donné sa révélation, puis il est important ce qu'on affirme provient de la parole de Dieu. Parce que c'est ça le trésor. C'est pas l'inspiration habile de d'autres à nous injecter des belles affaires qui semblent, en réalité, si c'est pas écrit là, c'est dangereux. Si on s'en tient à cela, il n'y a pas de problème. Tous les chrétiens, écoutez bien celle-là, tous les chrétiens sont appelés à combattre pour la foi, qui est notre trésor. Faut combattre pour la foi qui nous a été transmise, que la foi qui a été transmise aux saints. C'est un cadeau qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir. C'est une grâce, une bénédiction de pouvoir l'avoir dans nos mains. Dans des pays, là, ils se battent, là, puis ils aimeraient ça d'en avoir une, puis ils peuvent pas parce que le pays est contrôlé par leur gouvernement ou par des religions, puis c'est interdit de l'avoir, ce trésor-là. Puis là, la révélation, elle se fait à coup. Des fois, c'est prison ou mort à cause qu'ils veulent la parole. Puis ils en sont incapables, mais il y a quand même des Bibles qui rentrent clandestinement. Ça, je le sais, j'en ai un frère qui reste à Châteauguay, qui a déjà été en Chine communiste pour aller rentrer des Bibles là. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui le font présentement, puis ils font un travail ardu à essayer de faire entrer la Bible dans ces pays-là par des ondes courtes aussi. Il y en a qui rouvrent des stations de radio, c'est comme des CB, mais plus puissants, pour envoyer des messages de l'Évangile l'autre bord, dans les lignes où c'est impossible que ça rentre. Puis il y en a qui captent les messages, puis ils se nourrissent comme qu'ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent recevoir. Remercions le Seigneur d'avoir la liberté encore aujourd'hui, de pouvoir l'aller. Mais tous les chrétiens sont appelés à combattre pour cette foi-là, notre trésor qui nous a été transmis. On voit ça dans Jude, chapitre 1, verset 3. Il nous dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. » Il y a une exhortation qui veut nous dire là, c'est important de l'écouter. Il nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parce qu'il n'y a pas de deuxième foi ou de troisième message à recevoir. Il y en a juste un, puis ça nous a été transmis aux saints. Au début, c'était verbalement, les premiers chrétiens, c'était verbalement qu'ils se le transmettaient. Puis après ça, les apôtres, puis ils ont écrit des lettres, puis tout ça. L'enseignement nous a été rassemblé en un seul livre. Là-dedans, on reçoit la révélation de Dieu qui nous permet de connaître Jésus-Christ. Puis ça, cet ensemble de révélations-là, c'est ça le trésor. C'est un trésor. C'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. Puis les chrétiens sont appelés à combattre pour la foi. Savez-vous que dans l'histoire, pour qu'on puisse avoir la Bible dans nos mains, il y a eu des guerres de religion dans l'histoire. Puis il y a eu des recensements qui ont été faits, des analyses de cette histoire-là, Des chrétiens qui sont faits tuer pour le nom de Jésus, c'est estimé à 50 millions de chrétiens qui ont été tués, selon les estimations, dans l'histoire depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Puis il y en a encore qui se font tuer pour défendre la foi. C'est toutes des gens qui n'ont pas été gênés de dire « Je crois en Jésus et je crois en sa parole. » Puis ils ont défendu son nom au Seigneur. Ils ont défendu son nom au prix de perdre leur vie. Les chrétiens aujourd'hui, on n'en subit pas vraiment de pression, mais si jamais ça arrive un jour, il faut que les chrétiens soient prêts à défendre la parole. Même si on se retrouve tout seul, faut être capable d'aller jusqu'au bout parce qu'on est toujours devant Dieu, puis il faut rester ferme dans la foi. Il faut apprendre à combattre. Nous sommes là pour la défendre, cette parole-là. C'est le contenu de ce livre aussi. On entend toutes sortes de choses véhiculées par tout le monde, puis on est là pour ramener la vérité. Quand c'est le temps de dire quelque chose, faut pas être gêné d'ouvrir la bouche, puis de déclarer ouvertement les vraies affaires. Nous devons marcher, en tant que chrétiens, dans l'unité. C'est pas un travail individuel, être chrétien. Être chrétien, c'est un corps. C'est le corps de Christ. Les chrétiens font partie d'un seul corps. On doit travailler à marcher ensemble pour défendre cette parole. C'est pas un travail qu'un va au front, puis lui, il se fera lancer des roches, puis il se fera, puis les autres le regardent faire, puis tout le monde, il s'est fait assassiner. C'était à lui de pas y aller. Là, il y a ça, c'est ce monde-là qui marche de même. Mais les chrétiens, c'est pas de même. Les chrétiens doivent être unis, solidaires, travailler ensemble pour que le message passe. Regardez bien l'autre verset. Dans Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Les chrétiens doivent être fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On parle de la foi, mais la foi, c'est cela, le sujet de la foi, le contenu de cela. Puis on a à combattre du même âme pour la foi. Et où la foi? C'est la Bible, la parole de Dieu, les enseignements, la sainte doctrine, l'Évangile. C'est ça la foi. Le message, le contenu de ce qui est écrit dans ce livre-là. Puis les chrétiens doivent apprendre, comme c'est écrit là, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ça veut dire quoi, combattre d'une même âme? Comme formant qu'un. On combat tous le même combat. L'apôtre Paul, lui, partait, il n'était pas tout seul. Il y avait Barnabas, Timothée, Tite, puis il y en avait d'autres. Plus les autres qui étaient autour, qui l'accompagnaient, qui pourvoyaient financièrement. Il était une équipe. Il arrivait dans une ville, il débarquait, il évangélisait. Il y en a un peut-être qui rouvrait la bouche, toutes les autres qui étaient avec, priaient avec lui, sans compter que les autres églises autour pourvoyaient, envoyaient des dons financièrement pour aider à Paul à continuer à avancer. Puis les églises priaient pour leur ministère. Fait que tout ensemble, d'une même âme, d'un même cœur, il était une équipe qui permettait à l'équipe principale d'être au front. Voyez-vous? Le travail pour répandre la parole, pour combattre dans l'œuvre, c'est un travail d'équipe. Faut que tout le monde participe. C'est pas un qui va y aller, puis il est tout seul, personne prie, puis tout le monde le regarde, puis s'il n'y a rien qu'un œil au burn away, mais c'est à tout de pas y aller. Parce qu'il y en a qui réagissent comme ça. Puis nous, nous ne sommes pas de ce genre-là. Le Seigneur veut qu'on arrive à rester d'un même esprit, combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On parle du sujet de la foi, mais la foi, ça se défend. Puis il y a une guerre contre la foi. Puis nous, nous sommes là pour défendre la foi, prendre position pour la foi. S'il n'y a plus de gens qui parlent pour la foi, l'idée de la foi va être effacée, puis ça va être d'autres religions qui vont embarquer. Puis là, on va subir les régimes des autres religions. L'Église a été désignée par Dieu pour soutenir la vérité. La vérité, c'est les révélations de Dieu, c'est le message de Jésus-Christ. L'Église est là pour soutenir la vérité de notre trésor. Les révélations, c'est notre trésor. On est là pour combattre. Dans 1 Timothée 3,15, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, « Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est là pour soutenir la vérité. Imaginez que la vérité, là, c'est la bâtisse qui est au-dessus de nous, 40 bâtisses. Qu'est-ce qui soutient? C'est les colonnes qui entourent la bâtisse. C'est ça qui soutient la bâtisse. La vérité, c'est ce qui est soutenu. Puis qui va la soutenir? C'est l'Église. Chaque membre de l'Église. Tu t'es-tu sauvé? Tu fais-tu partie de la famille de Dieu? Si tu fais partie de la famille de Dieu, c'est ton rôle de soutenir la vérité. Si tu es sauvé, ton travail, c'est de combattre pour la foi de l'Évangile. C'est de soutenir les révélations de Jésus. Ça, c'est ton trésor, puis il n'y a rien de plus précieux. Puis notre travail, c'est que ça soit vu, entendu. Que d'autres personnes puissent puiser dans ce... Autant que nous, on a fouillé, on s'est enfargé dans le trésor qui était dans le champ, puis on l'a trouvé. Puis quand on l'a trouvé, on a tout vendu pour le prendre. On l'a maintenant. Mais on l'a-tu pris pour le mettre dans nos poches puis le cacher? Non. On veut que tout le monde puisse en profiter de ce trésor-là. On va se rendre partout dans les places publiques, puis on va aller le montrer. Puis prenez-en, c'est pour vous autres aussi. C'est gratuit. Amen. Il est important de combattre pour le bon combat. Parce qu'il y a beaucoup de combats dans cette vie. Il y en a tellement de choses que nous pouvons défendre dans ce monde. Mais un seul est le bon combat. Combat. Tu peux te combattre contre l'avortement, tu peux combattre contre le féministe, tu peux combattre contre sauvons les phoques, tu peux combattre pour la pollution, tu peux combattre pour la couche d'ozone ou le fluor, dans toutes sortes d'affaires. Tu peux combattre pour toutes sortes d'idées, des combats, il y en a à la tonne. Tu peux combattre la pauvreté. Mais c'est pas le combat principal. Il y a les combats qui sont corrects, c'est pas défendu de combattre pour des causes. Mais le combat, le bon combat, c'est de combattre pour la vérité. Combattre pour défendre le trésor qui nous a été donné de Dieu. Dans 1 Timothée 6,12, Paul il l'explique encore à Timothée. Il lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. La foi que nous vivons, que nous professons, doit être, on doit se battre pour. On doit combattre, ça devrait être notre premier combat de défendre notre foi. Quelqu'un vient nous parler contre la foi, on redit les choses qui sont conformes à la foi pour renverser les faux raisonnements. Combattre, il dit combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La foi, c'est une prise de position. Tu confesses devant tout le monde que tu crois que c'est Jésus qui est le oint, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Il est mort, il est ressuscité, son sang est versé pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Maintenant, on a la vie éternelle. Mais en attendant, c'est une belle bénédiction de le savoir, tout ça. Mais combattons le bon combat, commençons à répandre ce message-là. Ouais, mais combattre de quelle façon? Comment on peut arriver à combattre concrètement? Mais il y a au moins deux grandes lignes dans lesquelles on peut combattre. Premièrement, combattre par la prière. Parce que dans Romains 15, 30, Paul nous en parle, il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Voyez-vous, comme je vous expliquais tantôt, l'apôtre Paul, il était peut-être au front en train d'ouvrir la bouche, mais il avait besoin de prière. Il avait besoin de la force de Dieu. Il a besoin que Dieu lui rouvre les portes ou que c'est des chemins qui sont pas bons qui ferment les portes. Qu'il avait besoin que Dieu pourvoie financièrement. Il a besoin de toutes sortes de besoins que Dieu le délivre des incrédules qu'il rencontrait sur son chemin. Puis il délivre aussi de la prison quand il s'est fait mettre en prison injustement. Puis toutes sortes de combats qu'il vivait. Puis il était là, lui, il subissait, mais il demande à tout le monde de combattre avec lui. Donc, tout le monde devient participant de sa bataille pour gagner ses victoires, voyez-vous? Puis s'il y a Dieu, sûrement, puis c'est officiel, Dieu a répondu à ses prières, puisqu'on voit qu'il a été libéré à la fin de sa vie, puis il était dans Rome, puis il continue à prêcher librement. Il a été délivré de la prison, délivré de plein d'embûches, tout ça. Dieu a exaucé, ça veut dire que tout le monde qui a prié n'a pas prié en vain, puisqu'il a accompli son ministère. Puis juste les lettres qu'il a écrites sont restées 2000 ans plus tard, puis ça l'aide encore à sauver d'autres personnes. Fait que son ministère, il a un impact mondial. Puis, il n'est pas juste dans ces temps-là, même 2000 ans plus tard, il y a encore un impact avec son ministère. Donc, tous ceux qui ont prié avec lui ont participé, puis la bénédiction va s'étendre à tout le monde qui ont entré dans le combat, voyez-vous. Puis, ceux qui ne voulaient rien savoir, « Moi, je prie pas pour lui, qu'il s'arrange. » Bien, lui, celui qui pense de même, il n'aura pas de bénédiction. La bénédiction est pour les combattants. Les ouvriers, ceux qui n'ont pas peur de s'impliquer, soit en allant au front, soit en assistant à ceux qui vont au front, puis c'est parce qu'on est un corps, on est un travail d'équipe. Une autre manière pour combattre, c'est combattons aussi avec l'annonce du message de l'Évangile. Quand que tu sors puis tu prends position devant les autres pour expliquer des versets, pour parler des choses de ton trésor, mais tu es en train de combattre pour l'Évangile. Tu es en train d'aider d'autres personnes à recevoir le message du salut puis être sauvées. Tu es en train de renverser les œuvres des ténèbres, parce qu'il y en a qui sont prêts que tu sortes de mauvaises pensées, des pensées fausses. Là, tu expliques les vraies affaires. Puis là, ça arrive régulièrement que les gens acceptent ton idée puis se débarrassent de leurs pièges qui sont capturés. Ça peut être un chrétien qui est capturé par quelque chose, puis le fait que tu l'aies encouragé, prié pour lui, t'as combattu pour l'Évangile, t'as combattu, t'as ramené un chrétien qui était mêlé, perdu, qui s'est égaré, tu le ramènes dans la vérité. Mais combattre, c'est de ne pas être gêné de prendre position pour Jésus, puis parler dans le nom de Jésus, parce qu'on est envoyé pour cette mission-là. Jésus a envoyé ses disciples aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est une évangélisation systématique. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire systématique, c'est une évangélisation quand il dit prêcher à toute créature, à toute la création, c'est que t'es-tu une personne? Oui, bon, mais je te parle à toi. Toi, t'es-tu une personne? Oui, je te parle à toi. Puis à toute création, là, à toute la création, mais faut que tu parles à tous les humains que tu rencontres. C'est systématique. On n'est pas là pour dire, oh, ben lui, il n'y a pas de l'un des gars qui va écouter. Puis là, on commence à en trier un. Ah, lui, il est trop lent. Ah, lui, il est trop pauvre. Ah, lui, il a ci, lui, il a ça. Puis on commence à trier. Mais on n'est pas en train de prêcher à toute créature. Tu veux travailler pour Dieu? Dieu nous demande de combattre avec lui. Parle à toute la création. Tu vas être en train d'aider tout le monde qui sont autour de toi, qu'ils le veulent ou non. Tu les offres. Tu forces pas personne. Tu vas juste leur offrir ce que tu sais, ce que tu as compris, ce que tu as dans tes mains, ton bon trésor, ton beau trésor. Dans 1 Thessaloniciens 2:2, Paul nous parle justement de combattre dans l'annonce du message par l'évangélisation. Il dit, Paul, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, parce que dans la ville de Philippe, il y a eu des persécutions, puis il a souffert, ça faisait mal. Comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu. Fait qu'après que ça ait été mal à évangéliser dans une ville, ils ont pris de l'assurance en Dieu. Ils sont mis à prier, là, puis Dieu les a boostés d'un boost de foi pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Fait qu'ils se relevaient en priant à Dieu, parce qu'il était un homme comme tout le monde, puis ça devait y donner la trouille d'affronter toujours du nouveau monde. Comment est-ce qu'ils vont le recevoir, le message? C'est pas facile d'évangéliser. Mais il y a eu beaucoup de combats, il a été lapidé à des places, il a été mis en prison, s'est fait battre de verge, il a vécu de l'opposition aussi dans tout ce qu'il disait, le monde le critiquait, puis parle la con, puis la foule qui crie. Et mettez-vous dans sa place, que ça prenait un gars qui, armé de la foi de Dieu. Mais il y en a encore des gars comme ça. Puis il y en a qui ont même pas son zèle à lui, puis ont été pareils. Lui dit, c'est fortifiant le Seigneur pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il a continué à répandre l'évangile, puis ça a été beaucoup de difficultés par tout ce qui passait, mais il a persévéré. Puis il est un vrai combattant. Pour moi, c'est un exemple, ce gars-là, l'apôtre Paul, de son travail, de son zèle, de son courage, sa force qu'il avait à l'intérieur donnée par Dieu, c'est bien entendu, mais il n'avait pas peur, comme on dirait, pas peur de personne. Il fonçait dans le tas. Dieu s'en cherche encore du monde qui sont prêts à foncer dans le tas, qui n'ont pas froid aux yeux, puis qui vont aller de l'avant pour aller porter le message de l'Évangile. Paul, il a travaillé fort à persévérer, à nous montrer l'exemple, à combattre pour le bon combat, il a gardé la foi, puis il recevra sa récompense. C'est ce que ça nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 7 et 8. Paul le dit, « J'ai combattu le bon combat. » Il avait dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Mais il dit, « Lui, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. » Il dit, « J'ai gardé la foi. » Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, puis le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice n'était pas juste pour Paul, et pour tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est quoi son avènement? Je n'ai parlé mercredi. C'est quoi? C'est son retour sur cette terre. Son avènement, c'est son retour, son apparition. Tous ceux qui vont avoir aimé ça, là, puis ils l'ont entendu, puis on s'assous-entend qu'ils ont travaillé pour cette cause-là, ben, c'est beau le savoir, mais si t'es pas intéressé. Mais si t'aimes ça, là, tu fais partie, mais la couronne de justice va être réservée à tous ceux qui l'aimaient, puis qui ont pas eu peur de s'afficher, de prendre position. Jésus dit un autre verset, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant mon Père. » Le dernier verset, « Faisons comme Moïse. Ayons les yeux sur la rémunération. » La rémunération, c'est le salaire des ouvriers. Moïse, il a regardé les trésors d'Égypte, Puis il dit, pour lui, ça n'a pas d'importance. C'était plus important l'opprobre de Christ. Dans ce verset-là, ça dit, parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. La rémunération, c'est après la vie. C'est beau ici, dans cette vie, que tu aies tous les trésors, de, les conforts, puis les loisirs, puis les luxes. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le royaume de Dieu qui est là aussi dans ce... Puis là, Dieu, il voudrait qu'on aime plus les choses du royaume de Dieu que les plaisirs et les trésors de ce monde. Puis il dit, t'aimes plus les choses du royaume de Dieu parce que tu sais qu'un jour, on va se retrouver l'autre bord, puis on va pouvoir obtenir ce qui nous avait été promis. C'est quoi qu'il nous a promis? La vie éternelle, puis tout ce qui va avec. Parce qu'il y en a des choses, il y a plein de versets, plein d'affaires, on n'en croira pas nos yeux, mais on n'aura pas le choix. On marchera pas par la foi, là, bon, on marchera par la vue. On va voir Dieu de nos yeux, on va voir la ville sainte, les deux pieds, on va avoir les deux pieds dedans, on va courir là-dedans. Yahoo! On va profiter de tout ce que Dieu a créé à notre disposition pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut y croire. Puis on le verra. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Les gladiateurs, les combats de lutte, les combats de boxe, les combats de lutte extrême, tous ces gens-là qui se battent dans l'arène pour faire comme un spectacle, mais le gars, il se bat pas pour perdre, il se bat pour gagner. Puis pour gagner, il y a beaucoup d'entraînement et un régime très serré, un régime alimentaire, beaucoup d'entraînement, se coucher de bonne heure, puis etc. Plein d'affaires à faire attention pour être au maximum de sa shape, pour réussir à gagner si c'est pas un match préorganisé là, à marcher d'avance puis que c'est déjà décidé qui va gagner. Mais en temps normal, un match est pour un gagnant, puis le gagnant il gagne la médaille, puis les autres l'ont pas. Puis il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes, toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Toutes les médailles, des médailles, les Olympiques, puis tout ce que tu voudras ici dans ce monde, les Golden Gloves, ou que peu importe ces médailles-là, ça sert que pour le temps présent. Et ça va tout être effacé. Il n'y aura rien qui va rentrer l'autre bord, qui va être soutenu parce que tu as gagné un championnat à la boxe. Ça ne sert à rien pour Dieu. Ce n'est que pour le moment présent. Et toutes ces médailles-là, c'est des médailles corruptibles, qui vont se corrompre et qui vont disparaître. Les seules médailles qui vont durer éternellement, c'est les couronnes incorruptibles. Des couronnes qui ne se corrompront jamais, puis ceux qui vont les obtenir, parce qu'il y a des couronnes de gloire, des couronnes de justice, la couronne de vie, il y a plusieurs mots couronnes qui parlent pour les choses à venir. Puis, il y a sûrement des couronnes pour les martyrs, puis des couronnes, mais on mentionne pas tout, mais disons que Dieu va récompenser lui-même, puis félicitera. Parce que quand il nous parle qu'il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, en parlant aux chrétiens, c'est comme un podium pour recevoir tes récompenses, le tribunal de Christ. Tu vas te faire dire, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, puis tu les as pas fait. Ça, tu vas voir ce que tu as perdu, mais tu vas obtenir ce que tu as gagné. Parce que Jésus nous dit, amassez-vous un trésor dans les cieux. S'il n'était pas question de s'amasser qu'un trésor, on arrive l'autre bord, puis Jésus nous dit, c'était juste une joke. Vous n'avez pas de trésor. Mais là, on a couru après une fausse carotte. Voyez-vous? C'est comme un bâton avec une corde, une carotte, pour te faire avancer. Par la réalité, il n'a pas de cadeau. Non. Jésus ne ment point. C'est pas un faiseur de joke. C'est quand il parle qu'il y a du monde qui s'en va dans l'étang de feu, c'est pas une joke. Puis quand il dit qu'il y a des couronnes, puis il y a des récompenses, puis il y a des trésors l'autre bord, mais c'est pas une farce non plus. Puis tout va nous être distribué. Puis on va obtenir selon notre travail. Qui veut être riche l'autre bord? Qui veut être sur l'aide sociale l'autre bord? Vous voulez être riche l'autre bord? Travaillez pour Dieu. Investissez-vous dans votre temps, dans votre argent, dans vos capacités, vos dons, dans ce que vous avez. Servez le Seigneur. Puis si vous êtes fidèle d'un petit, il va vous en confier de plus grandes. Ça va s'en aller en grandissant. Soyez impliqués au maximum. Vous savez pas quoi faire, commencez donc à prier pour ceux qui travaillent. Vous vouliez faire de quoi? Allez demander à ceux qui vont évangéliser, puis à quel temps qu'ils y vont, puis allez-y avec eux. Allez évangéliser, allez porter le message, puis mais qu'on arrive l'autre bord, on va recevoir selon notre travail. Dieu se cherche des combattants. On est-tu prêt à se lever pour combattre avec le Seigneur? Amen! Gloire à Dieu! Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tout ce qui est écrit, pour nous encourager à combattre pour la foi. Seigneur, c'est un cadeau la foi, nous le savons. C'est un cadeau tout ce que tu nous as révélé. C'est une grâce. On ne mérite rien. Mais apprends-nous à combattre, à racheter le temps, à s'investir le maximum qu'on peut avec les dons et les talents que tu nous as confiés. On veut voir ton nom élevé. On veut voir d'autres personnes accepter Jésus. On remet tout ça entre tes mains, Seigneur, que tu nous diriges dans ton plan merveilleux, dans le nom de Jésus. Amen.